Et maintenant, nous allons recueillir des témoignages d'enseignants. Alors, je dis à toute vitesse comme ça les noms de nos protagonistes. Si j'arrive à bien les épeler, Madame Claire-Lise Cavussens, qui est au CO de Lignon. Madame Christine Lebas, qui est dans le quartier Balexer à Vancher, qui est aussi du CO. Madame Myri Zappa, qui est au Paquis, elle en plein centre. Monsieur Étienne Brun, que vous connaissez déjà, qui est à Pacha. Et alors on va commencer, Madame Zappa, par les tout petits, qui sont en plein centre, au Paquis. Comment les choses se passent-elles?
Bien, disons, ça se passe toujours très bien. Cette année, j'ai 7 enfants, non scolarisés ou très peu scolarisés, qui vont de la 2P à la 6P, comme classe, degré. Et disons que l'enseignement doit être très individualisé parce que ces enfants sont très différents et ont des besoins différents. Et c'est moi qui dois m'adapter plus ou moins à eux, plutôt que le contraire. Je dois suivre leur rythme. Et j'ai en même temps la charge de visiter les parents, de rendre visite aux parents, parce que souvent les parents ont peur un peu de ce que représente l'école. Pour eux, c'est quand même une institution avec un grand I, ce qui fait que la relation est toujours un peu difficile entre parents et école. Et c'est toujours très intéressant d'aller visiter les parents. On apprend énormément de choses. On est souvent très très bien reçus. On est invité à manger et à partager la cuisine régionale de leur pays.
Ça, c'est sympathique.
Oui, c'est vraiment, je trouve ce côté-là très très intéressant.
Monsieur Cuplin partage aussi cette idée parce qu'il est très gastronome.
Ah oui, moi aussi. Oui.
Et dans ce, je vais dire dans ce duel, vous voyez, vous avez l'air de me présenter ça, Madame Zappa, comme une sorte de dialogue. Mais quelquefois, il peut y avoir quand même une hostilité, une adversité entre maître et parent.
Je ne dirais pas que c'est une adversité, ça s'appelle pas ça une adversité. Disons que les parents sont souvent intimidés devant les maîtres. Et ils ont un peu peur de poser des questions aux maîtres vis-à-vis de leurs parents, de leurs enfants plutôt. Parce qu'ils sentent que leurs enfants ne sont pas au rythme ou tout au moins au niveau des autres enfants qui sont déjà à l'école depuis de longues années. Et puis ils ont un peu peur aussi, ce sont des enfants souvent immigrés, les parents ont un peu peur des questions que l'on pourrait poser ou ils sont très gênés. Et souvent leur culture semble, la culture différente qu'ils ont semble les gêner par rapport à la culture qu'on possède ici. Alors ils se sentent un peu diminués. Mais quand on va dans la famille, tout se passe très très bien.
Il faut aller manger, quoi.
Oui, c'est vrai.
Je comprends bien.
C'est vrai.
Il faut passer une soirée et
oui,
tout s'arrange
oui,
beaucoup
oui,
mieux.
Oui, oui.
Mais tout à l'heure, est-ce que c'est M. Aubin ou c'est M. Brun qui nous disait que plus les enfants sont petits et plus ça s'arrange bien? C'est
ah,
vous,
oui.
M. Aubin.
Oui, oui.
C'est vrai?
C'est vrai, parce qu'un enfant de 2P a beaucoup moins de choses à rattraper qu'un enfant qui sera en 6e, par exemple. Le programme est beaucoup moins chargé. Et déjà, à la fin de l'année, il est capable de suivre presque totalement la classe, ce qui se passe en classe. Il a rattrapé au point de vue lecture. Très souvent, la lecture est rattrapée parce que le langage vient très vite. Il est capable de se débrouiller très vite avec les autres camarades. Et c'est le passage à l'écrit qui est le plus difficile, le passage à l'écrit et au programme. Mais disons qu'un enfant de 2P à la fin de l'année est presque à flot.
Un enfant de 2P, c'est donc un enfant de 8 ans.
Oui,
hein, c'est ça.
8 ans, c'est ça.
Mais parce que vous savez, avec les appellations, hein, qui d'ailleurs varient d'un canton à l'autre, on a de la peine à s'y retrouver nos autres, comme diraient les Canadiens. Alors, là, à 8 ans, en fait, vous estimez qu'en une année, un enfant peut avoir rattrapé ses petits camarades?
Pas hein, totalement.
Sauf pour l'écrit.
Sauf pour l'écrit. Il faut quand même 2 ans. J'estime qu'il faut quand même 2 ans à plein temps pour qu'il soit vraiment capable de suivre une classe correctement. Bien entendu, tout dépend des enfants.
Puis j'allais dire, tout dépend des maîtres. Alors, Madame Lebas, vous avez alors de grands garçons et de grandes filles, 14-15 ans, je ne sais pas à quoi ça correspond comme classe, mais enfin comme âge, en tout cas, nous voyons bien, vous êtes dans le quartier Valexer, à Vancher, enfin tout près de l'aéroport.
Oui, c'est ça, c'est le cycle des Coudriers. Mm-hmm. Ça correspond en fait à la dernière année obligatoire à Genève. Donc tous ces enfants, en sortant de cette 9e, devront trouver une orientation, soit professionnelle, soit post-scolaire. Et c'est là le gros problème justement des classes de 9e, c'est tout au long de l'année se préoccuper de cette orientation, parce qu'effectivement quand ils arrivent en septembre, il y a d'abord le problème crucial de la langue à résoudre, et leur parler d'orientation à ce moment-là, c'est trop tôt. Et pourtant, le temps passe très vite et le problème se pose tout au long de l'année. Maintenant, à cet âge-là, il y a d'autres problèmes qui se posent, c'est qu'ils sont évidemment en pleine adolescence, et que, en plus du problème de communication dû à la langue, il y a le problème psychologique des adolescents, les rapports avec les parents qui peuvent des fois être difficiles. Je pense par exemple que des fois certains parents ne comprennent pas la mentalité qu'on a ici en Suisse vis-à-vis des jeunes et continuent à appliquer les principes de leur pays, ce qui se justifie évidemment dans leur culture, mais ils ont de la peine à accepter qu'ils vivent dans un autre pays.
Mais c'est plus dur ou c'est plus doux?
C'est souvent plus dur, hein, mais disons que je généralise pas, mais c'est valable pour certaines civilisations où là, je parle surtout de la condition de la femme qui est assez soumise. Ils acceptent mal ici de voir leurs enfants sortir, je dis pas qu'ils sortent à des heures pas possibles, enfin même de sortir pour une soirée de classe ou des choses comme ça, ou de partir en voyage d'études, ça peut poser des problèmes. D'autre part, en fait, je trouve que ce travail en classe d'accueil, à ce niveau-là, ou probablement en 7e, 8e aussi, est un travail plus psychologique, social, qu'un travail d'enseignement. Il y a aussi, bien sûr, la partie enseignement, mais je crois qu'avant tout, ce qui est important, c'est qu'ils sentent qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin d'une chaleur humaine en arrivant. Ils demandent beaucoup, mais ils donnent aussi beaucoup. Ils sont tous... Dans l'ensemble, ils sont tous très motivés, à quelques exceptions près. Et ces exceptions, en général, s'expliquent par des événements qu'ils ont vécus antérieurement, qui ont pu les troubler.
Dans leur pays ou dans leur famille?
Dans leur pays, je pense, à des réfugiés politiques qui ont vécu des situations particulièrement tragiques, ou des émigrés qui n'ont pas vu leurs parents pendant un certain nombre d'années, et qui tout à coup se trouvent confrontés à un pays inconnu, une langue inconnue, des parents qu'ils connaissent à peine. Mais ce qui est merveilleux, c'est aussi toute
Non, non, mais écoutez, je suis comme vous, je vais essayer de le dire. L'hétérogénéité, je crois.
De ces classes.
C'est un de ces mots dont on ne se sent jamais, vous voyez.
Qui fait qu'on a des enfants d'émigrés qui cohabitent très très bien avec des enfants de diplomates, de fonctionnaires ou de réfugiés politiques. Dans l'ensemble, il y a un bon esprit de classe, je peux dire. Mais ils aiment beaucoup qu'on s'occupe d'eux en dehors de l'école aussi, qu'on ait des contacts en dehors. Dès qu'ils savent un peu parler français, ils vous font leurs confidences. Ils aiment qu'on s'occupe le plus possible d'eux.
C'est aussi votre cas, Madame Cavussens, vous qui avez donc au Lignon, et vous avez des enfants de 12 à 13 ans, c'est-à-dire l'âge intermédiaire. On dit souvent que c'est l'âge difficile. Pour les filles, on dit que c'est l'âge bête. Alors, je ne sais pas s'il y a un âge pour cela, mais évidemment que 12-13 ans, c'est une responsabilité tout à fait particulière.
Bon, le problème, c'est que ces enfants arrivent au cycle d'orientation, et pour les enfants genevois, entrer au cycle d'orientation, c'est déjà une... différence par rapport à l'école primaire. Donc ils connaissent exactement dans ce sens-là le même problème que les enfants qui viennent d'école primaire genevoise, avec en plus toute la difficulté à s'adapter à une structure scolaire qui est très très différente finalement de la structure scolaire de leur pays. Alors, bon, maintenant, en question d'âge, par rapport à ce que disaient mes collègues précédemment, je pense qu'effectivement, une des grandes difficultés des élèves à partir de la préadolescence ou de l'adolescence, quand ils entrent dans une structure scolaire, un pays et un mode de vie différent, c'est que, à cet âge-là, à partir de 12 ans, ils ont déjà un vécu extrêmement conséquent dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils laissent souvent la famille qui les élevait, un cercle d'amis, et que pour eux, il s'agit finalement de reprendre absolument à zéro avec des handicaps à peu près à tous les niveaux. Alors, disons, ce qu'on essaye de faire en tant qu'enseignant dans nos classes, c'est de combler au maximum ces handicaps. Ce qui n'est pas une tâche facile parce que, comme on disait tout à l'heure, les classes sont très hétérogènes, ce qui fait qu'on a des élèves qui ont des niveaux de connaissances extrêmement différenciés.
Et suivant leur famille, en fait.
Je ne sais pas si c'est suivant leur famille, suivant leur pays d'origine, suivant la réalité qu'ils ont vécue, le type de scolarité qu'ils ont eu, et puis probablement aussi les motifs pour lesquels ils sont ici. Si la famille a envie d'être ici, probablement que l'enfant va vivre davantage avec, disons, beaucoup moins de difficultés, son intégration ou son adaptation à la vie d'ici. Mais il y a des cas où, bon, par exemple, il y a beaucoup d'immigrés qui disent « nous retournerons chez nous, nous retournerons chez nous », ce qui crée aussi des difficultés parce que l'élève se sent dans une situation provisoire.
Mais ça, il n'est pas véritablement établi. Mais oui, il y a une chose qui me frappe dans ce que vous dites, hein, mesdames, et qui est tout à fait significatif, c'est que votre travail, votre art, votre vocation, comme vous voudrez, d'enseignant, dans ce cas-là, va au-delà. C'est un contact permanent à avoir avec les familles. Vous êtes, en fait, vous êtes la famille d'accueil. C'est un peu ce sentiment que vous avez, Madame Cavessin.
Bon, c'est un sentiment qui me pèse dans la mesure où je trouve que c'est une très très lourde responsabilité. Maintenant, je pense aussi qu'on ne peut pas voir l'école comme une famille d'école, une famille d'accueil, ce n'est absolument pas possible. Dans la mesure de nos possibilités et puis en tenant compte de nos limites, on essaie de faire un travail plus général qu'un simple travail d'enseignant, mais nous avons nos limites aussi bien en termes de compétences qu'en termes de disponibilité, et puis on ne peut pas remplacer une famille. Et je vous dis, on essaye de faire ce qu'on peut, et ça touche effectivement toute une série de domaines qui n'ont pas grand-chose à voir avec un enseignement de type traditionnel.
Et un programme type, hein. Madame Lebas, c'est peut-être un piège, ça, en fait. Hein.
Pardon?
C'est peut-être un piège, en fait, de devoir ouvrir l'éventail de la disponibilité, de devenir non seulement enseignante, mais pratiquement psychologue.
Non, moi, personnellement, je dois dire qu'au contraire, j'y ai trouvé beaucoup de satisfaction parce que j'ai enseigné d'abord dans des classes ordinaires pendant un certain nombre d'années et je me suis recyclée en classe d'accueil il y a 6 ans. J'avoue que pour moi, c'est 2 mondes différents, c'est vrai. Dans les classes ordinaires, on s'intéresse aux élèves, mais on ne peut pas investir auprès de chaque élève et ils ont moins de demandes aussi. Tandis qu'en classe d'accueil, c'est très gratifiant. D'abord, on voit à la fin de l'année les élèves qui parlent tous, même s'ils n'écrivent pas tous parfaitement, au moins, on voit qu'on a servi à quelque chose. Et puis, ils viennent vous revoir. J'ai jamais eu autant de témoignages d'élèves après cette année en classe d'accueil. Ils gardent contact des fois 3, 4, 5 ans. Je reçois encore des cartes de vœux de Noël ou des choses comme ça d'anciens élèves. Donc, je pense que c'est le fait de sentir qu'on a joué un rôle dans leur vie, qu'on a été un point de départ, en quelque sorte, c'est gratifiant et ça encourage à continuer.
Mais vous ne m'avez pas dit, si cet accueil, cette disponibilité que vous avez, était ressentie aussi par les enfants, et notamment les enfants suisses. Alors, faisons peut-être un rapide tour de table. Lorsque des enfants étrangers arrivent, est-ce que dans une école ou ailleurs, les petits Suisses vont vers eux, Madame Cavessins?
Je crois qu'a priori, les petits Suisses ne vont pas vers eux, parce que finalement, le système des classes d'accueil consiste à avoir une classe spéciale par rapport aux classes dites ordinaires, où les enfants se retrouvent finalement entre eux. Alors bon, il y a des différences, parce qu'il y a un petit Zaïrois, un Vietnamien, un Espagnol, un Portugais, enfin bref, mais disons, ils restent entre étrangers. Alors par exemple, l'année passée, ce que nous avons essayé de faire, 3 collègues et moi-même dans mon cycle, c'était de mettre en contact ces élèves de classe d'accueil avec des élèves de classe ordinaire, pour que ces élèves de classe ordinaire sachent ce qu'est une classe d'accueil, parce que ça, c'est pas une chose tout à fait évidente. Même certains collègues ne savent pas ce que c'est qu'une classe d'accueil. Et puis, les mettre en rapport les uns avec les autres pour précisément, toujours dans cette perspective interculturelle, essayer de leur apprendre à connaître quelqu'un d'autre, à le voir sous un jour, disons, senti et non pas théorique, et puis permettre un certain nombre de contacts. Alors, ce type d'expérience a fonctionné relativement bien dans la mesure où, effectivement, les élèves de classe ordinaire qui ont été touchés par ce type d'expérience ont donné une sollicitude toute particulière à leurs camarades de classe d'accueil. Mais nous avons remarqué qu'à l'intérieur des classes ordinaires, il y a énormément d'élèves étrangers et que cette ouverture à l'autre ne se répercutait pas à l'intérieur de la classe ordinaire. C'est-à-dire que la classe d'accueil avait tout d'un coup un statut de petit protégé, mais que les rivalités, une certaine xénophobie et disons toutes les crasse que les élèves se font en nom de « toi t'es espagnol, moi je suis suisse » ou « toi t'es espagnol, je suis italien » continuait de se pratiquer dans la classe. Alors nous, on en a conclu qu'au fond, ce qu'il faudrait faire le plus possible, c'est organiser ou qu'ils organisent un certain nombre d'activités où ils puissent se confronter à travers des choses tout à fait concrètes et pas en termes de rivalité scolaire, « moi je sais, toi tu ne sais rien », mais en termes de partage à un niveau beaucoup plus créatif.
C'est votre avis aussi, Mme Lebas?
Oui, je pense que ça, c'est un gros problème. C'est le contact avec les élèves de classe ordinaire. Pour ma part, j'ai fait une tentative une fois de sortie de classe avec une autre classe. Eh bien, chacun s'est installé de son côté, a fait son petit feu de bois de son côté, mais il ne se mélangeait pas. Pourtant, il parlait déjà un peu français, il se débrouillait. Je dirais que ça va dans les deux sens. Hein. Ce n'est pas seulement les Suisses qui ne cherchent pas le contact, mais eux-mêmes, ils restent toujours en groupe, ils sont toujours ensemble. Quand j'arrive dans ma classe, ils sont tous groupés ensemble, ils ne cherchent pas. De temps en temps, oui, ils arrivent à faire des contacts avec des élèves étrangers, des Espagnols ou des Italiens d'autres classes. Ou alors des élèves qui ont un transfert partiel pour certaines matières, en mathématiques ou comme ça, ont l'occasion de faire connaissance. Mais je pense aussi qu'il y a... Il y aurait tout un travail à faire de ce côté-là au niveau des directions de collège pour essayer de mieux faire connaître la classe d'accueil dans le collège, puisqu'il n'en existe qu'une seule dans l'école. Bien des élèves, en tout cas tous les nouveaux, ceux qui arrivent en septième, ignorent totalement ce que c'est que cette classe. On voit parfois qu'ils guignent dans la classe en disant qu'est-ce que c'est, ils sont que 6 ou 7, enfin ils ne savent pas ce que c'est. Et je pense qu'une information au niveau de la direction pourrait... améliorer la situation et puis envisager peut-être des contacts. Par exemple, j'ai demandé à plusieurs reprises que la classe d'accueil puisse participer au camp de ski pour les 8e. Oui. On m'a toujours refusé du fait que c'était une 9e et que c'était réservé au 8e.
Alors après cette émission, vous verrez, ça ira mieux.
C'était une occasion pour eux de passer une semaine avec des élèves de langue française. Ça aurait été positif. Mais ça reste un point, évidemment... un peu pénible. Je crois que c'est une des raisons aussi pour lesquelles il ne reste pas plus d'une année en classe d'accueil, c'est pour éviter que ce soit un ghetto et que...
Qu'ils se développent en fait immorose mais extrêmement morose, de certaine manière.
C'est ça.
Monsieur Brun.
C'est surtout sur ce point-là que je voulais insister maintenant, c'est que à vous entendre, on aurait peut-être l'impression que les classes d'accueil sont des ghettos. Mm-hmm. Alors, de fait, il faut absolument que les enfants, dès qu'ils ont des éléments suffisants pour s'exprimer et comprendre, les transférer dans les classes ordinaires. Donc, tous les deux mois, nous avons un conseil de classe qui réunit la direction et les professeurs enseignants dans la classe, et nous étudions chaque cas de la classe d'accueil pour que l'enfant, le plus rapidement possible, puisse être transféré dans une classe ordinaire. Pour éviter justement ce phénomène d'enfants qui restent toute l'année dans une classe, un peu en vase clos, vous comprenez.
Je vous comprends, Madame Zappa.
Que justement, ce problème est totalement différent dans les classes primaires, puisque les enfants ne sont pas en classe d'accueil, mais sont intégrés à une classe et viennent avec nous, seulement pour apprendre le français et les mathématiques. Donc, ils n'ont pas ce problème de non-intégration à une classe, qui est différent des classes d'accueil. Et ils sont plus vite intégrés. On s'aperçoit moins de la différence, il y a moins de différence qui joue entre ceux qui sont dans la classe et ceux qui viennent avec nous.
Mais là aussi, il n'y a pas de manque de curiosité des petits Suisses, j'allais dire.
Si, par exemple, lorsque je vais chercher les enfants dans les classes, les élèves suisses ou les enfants de la classe me disent « Pourquoi est-ce qu'ils viennent avec toi ?»« Pour apprendre le français. » Ah bon ? C'est différent, disons, du problème de la classe d'accueil qui est une classe à part. Là, les enfants sont quand même intégrés à la classe et ne rencontrent pas ces difficultés aussi fortes, si on veut, que dans les classes d'accueil.
Mesdames, messieurs, je vous remercie. Nous allons maintenant, et pour terminer, entendre des témoignages d'élèves ou d'anciens élèves, parce que eux vivent les situations que vous nous avez décrites tout à l'heure. Et nous pourrons en savoir plus, je veux dire, de l'intérieur d'eux-mêmes. Maintenant, 4 élèves, dont 2 ont fini l'école. Les deux qui ont fait l'école sont, attendez, il ne faut pas que je me trompe, Mademoiselle Maria Pilar Tofino, qui est colombienne, qui vient de Colombie, et Monsieur José Salgado, d'Espagne. Les deux qui sont encore à l'école, c'est Monsieur Pedro Inácio, du Portugal, et Mademoiselle Febensium, pardonnez-moi pour la prononciation, hein, elle est peut-être pas crédible, qui vient d'Érythrée. Alors, je vais commencer, puisque vous étiez à l'école, on va y rester. Monsieur Inácio, vous êtes en 9e à peu près.
Oui.
Bon, vous nous dites votre âge, comment vous êtes venu ici, pourquoi vous êtes venu ici, d'accord? On se dit tout ça d'abord.
Oui, alors j'ai 15 ans. Je suis venu ici pour être près de mes parents. Je suis venu en 7e accueil, au cycle de Pinchat dans la classe de Monsieur Brun. Et maintenant je suis en 9e à la Florence.
Alors, est-ce que l'école a été plus difficile que le pays ou le pays plus difficile que l'école? Oui, ce que je veux dire.
Plutôt le pays.
Le pays vous a semblé plus difficile que les classes?
Oui, pour m'adapter en plus.
Vos parents étaient là depuis longtemps?
Oui, mon père, oui. Depuis 1972 ou 4, je ne m'en rappelle plus.
Et au départ, pour vous, c'était un petit peu compliqué de quitter le Portugal?
Oui, un peu, oui. Mais mes parents m'ont laissé choisir. Parce que si je restais là-bas, j'allais dans une école pour être interné. Puis je suis venu ici.
Vous êtes externe.
Oui.
Vous aimez mieux ça.
Oui, j'aime mieux ça.
Alors en fait, le choix a été pour vous sur tout cela. Et vous travaillez donc maintenant. Vous êtes en 9e. Vous dites que le pays était plus difficile à, je veux dire, accepter ou assimiler, si vous voulez, que la classe. En classe, est-ce que vous êtes trouvé d'emblée bien à votre peau, j'allais dire?
Oui.
Oui,
oui, mais il y avait 3 Portugais, mais je ne m'entendais pas bien du tout avec eux.
Ah bon?
c'est étonnant, mais c'est vrai, il y avait un Iranien, il est réfugié politique, je m'entends toujours avec lui, des contacts, et puis un Birmanien aussi. On s'entend toujours, on se rencontre, toujours maintenant.
Et le français est la langue par laquelle vous passez pour vous comprendre?
Oui, ça maintenant ça marche bien.
Et pour vous, mademoiselle Sium, pardonnez-moi, je ne sais pas si ça se dit comme ça.
Oui, c'est ça.
C'est juste, hein?
Oui, c'est juste.
Ça se prononce comme ça s'écrit?
Ouais.
Alors, vous êtes en 10e et vous venez d'Érythrée. Est-ce que je peux vous demander justement aussi la suite de quelle circonstance politique ou familiale vous êtes arrivée ici?
Bon, je suis arrivée ici l'année passée, 26 octobre. Bon, je suis un réfugié politique. Puis voilà.
Alors comment c'est venu le premier contact avec d'une part la Suisse et d'autre part l'école?
Je fais mieux contact avec les élèves de la classe Taki qu'avec les élèves de la classe ordinaire. Parce qu'on n'entend plus, on ne comprend plus entre nous qu'avec les gens qui parlent bien français.
Est-ce que le français, vous l'aimez?
Bon, je l'aime, mais j'aime bien plus l'anglais, c'est plus facile pour moi.
Fatigant le français, hein?
Oui, surtout en grammaire.
Ah, c'est ça. Et il faut bien passer par là. Vous avez l'intention de faire toutes vos études à Genève?
Bon, je sais pas.
C'est pas encore?
C'est pas encore.
Enfin, disons qu'en français, maintenant, vous pouvez lire un journal, vous pouvez lire des livres, vous pouvez pratiquer le français avec les gens que vous rencontrez.
Oui, plus ou moins.
Alors, je me tourne maintenant du côté des personnes qui ont fini l'école, en commençant par Monsieur José, c'est pas comme ça qu'on dit, on dit José, hein, Salgado d'Espagne.
Oui.
Alors, comment ça s'est passé pour vous? Combien de temps êtes-vous resté dans les classes et que faites-vous maintenant?
Bon, je suis arrivé il y a 3 ans. J'ai fait une année des classes d'accueil. Après, j'ai fini, donc j'ai cherché du travail, c'est-à-dire un apprentissage. On m'a aidé à trouver un apprentissage à l'école, donc. Et puis, je l'ai complètement raté. Oui.
Tout arrive, vous savez.
Voilà. Et puis, maintenant, je fais vendeur. Mm-hmm. Aussi un apprentissage, ça va un peu mieux.
Ça vous plaît?
Oui. Ah, c'est vrai.
Et chez vous, vous continuez à parler espagnol à la maison?
Oui, ouais.
Est-ce que vous avez eu l'impression aussi, depuis ces 3 ans, de vous avoir fait, comme on dit, des copains, des amis, enfin, ici?
Non.
Non?
Malheureusement, non. J'ai pas des copains suisses. J'ai maintenant un copain au cours, où je suis maintenant. C'est un Italien. C'est tout.
C'est la difficulté, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Mademoiselle Maria Pilar Tofino, vous venez de Colombie, ce qui n'est pas banal, hein, parce que la Colombie, tout le monde en parle, mais il y a peu de gens qui y vont. Alors vous venez de là-bas, et pour vous aussi, comment ça s'est fait?
Moi je suis arrivée en Suisse, j'ai fait la 9e au Coudrier. Ensuite, j'ai fini, j'ai fait 2 ans de collège. J'ai arrêté le collège, puis j'ai fait un apprentissage de gestion. Puis maintenant, j'ai fini, je travaille à pharmacie principale comme comptable.
Comme comptable?
Ben oui.
Oh là là. Ah bah dites-moi.
Et puis voilà.
Ça marche?
Ouais, ça marche bien.
Vous aimez les chiffres?
Ouais.
Mais alors vous aimiez aussi les lettres françaises? Parce qu'en général, ça n'a pas de pair. Hein. Quand on est fort en maths, on n'est pas fort en français.
Ah non.
Ça marchait.
Ça marchait.
Et vous aussi, vous avez l'intention de rester ici, de faire votre vie ici?
Mais je sais pas, mon père est fonctionnaire international, BIT. Mmh. Et puis bon, normalement, mon père repart en Colombie dans 2 ans, je crois. Mais moi, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais rester ici un moment, mais après, je partirai. Mais disons, ça n'a rien à voir parce que c'est la Suisse, c'est parce que j'aime voyager, c'est tout.
Mais lorsque vous êtes arrivé ici, vous ne connaissiez absolument pas le français?
Ah non, pas un mot. Absolument pas. Ça sert à quelque chose quand même, les classes d'accueil.
Monsieur Vittori, nous venons d'entendre une excellente conclusion qui est donnée par Mademoiselle Maria Pilar Tofino. Ça sert à quelque chose et classe d'accueil. C'est vous qui nous avez proposé ce thème, ce sujet pour Parade de ce soir. Je veux dire que nous avons pris énormément de plaisir à vous entendre, vous les enseignants, vous les élèves, vous les directeurs ou conseillers ou chargés de mission comme Madame Ray. Et on se rend compte de la réalité. On parle toujours des organisations internationales. On parle toujours de Genève, n'est-ce pas, ville internationale. Mais on se rend compte qu'au-delà de ces clichés, en fait, il y a une réalité pour toutes les familles. Et je crois que c'est cette réalité-là que vous nous avez fait vivre ce soir. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup à faire ou est-ce que c'est déjà un pas important franchi, justement, du côté de l'intégration?
Je crois qu'il y a les deux. Il y a encore beaucoup à faire et le pas est important. Mais je pense que c'est intéressant de voir ce qu'a réalisé l'école genevoise. Parce que, précisément, Mademoiselle Tofino est la fille d'un de mes collègues qui est arrivé dans le bureau d'à côté du mien et qui ne parlait pas un mot de français, il parlait espagnol bien sûr. Et il est venu je crois quelques mois ici, 3 mois je pense. Hein. Et après elle a fait venir sa famille. Bon, alors le premier accueil c'est moi qui l'ai fait avec lui en tant que Suisse de service et genevois de service. Et il a dû chercher un appartement pour sa famille, il a dû se renseigner pour les assurances, il a dû se renseigner pour l'école, etc. Mais cet accueil-là est un accueil, je dirais, horizontal, c'est-à-dire avec un collègue qui faisait un travail analogue au mien, au même grade, etc. Tandis que l'école permet un mélange, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des enfants étrangers qui viennent du milieu international, du milieu diplomatique, parce que quand même un certain nombre de chargés de mission diplomates ici à Genève essayent de mettre, tentent de mettre leurs enfants dans les écoles publiques et pas forcément dans les écoles privées. Il y a des enfants de réfugiés politiques. Ça peut créer des problèmes entre le représentant d'un gouvernement, dirons, de démocratie musclée, et puis un réfugié politique du même pays. Et sur le plan social aussi, il y a une diversité considérable, c'est-à-dire entre un enfant d'une classe bourgeoise, si vous me permettez l'expression, et puis un enfant d'émigré, qui vient un enfant de travailleur du bâtiment, par exemple. Alors je crois que c'est extrêmement important et que l'école fait beaucoup plus que tout autre pour cette intégration, cette compréhension mutuelle, parce que les enfants, bien, on a des atomes crochus, non pas parce qu'on vient de tel et tel milieu, mais parce qu'on se sent bien en relation l'un avec l'autre. Ce qui m'étonne un peu et ce qui m'attriste un petit peu aussi, ce qui me fait dire aussi qu'il y a encore des grands pas à faire, c'est qu'il semble, d'après les témoignages que nous avons reçus maintenant, qu'il n'y ait pas tellement de contact ou d'amitié qui se développe entre les enfants étrangers, je dirais, et ceux qui sont suisses. Et je crois que là, il y a peut-être encore un effort à faire, et nous avons entendu tout à l'heure que l'école faisait tout ce qui était en son possible pour mettre en contact les uns avec les autres, mais il y a certainement des progrès à réaliser dans cette direction. Enfin, quand même, je crois que cette émission était une bonne émission, qu'elle a appris pas mal de choses à tous ceux qui ont bien voulu la suivre, et que nous constatons que beaucoup de choses ont été faites et que beaucoup de choses sont à faire, non seulement à l'école, mais dans les relations que nous avons tous à différents niveaux et là où nous sommes, puisque dans ce pays, il y a pas mal d'étrangers et que ça pose un problème au pays et aux gens de ce pays. Et si on veut aller dans le sens de l'effort qui est fait par l'école genevoise, et qui est un effort qui est bien orienté à mon avis, eh bien, nous allons résoudre ces problèmes difficiles, mais qu'il faut absolument surmonter si nous voulons que nous vivions une communauté à l'échelle du monde, parce que nous y sommes contraints par les circonstances. Ce n'est pas un libre choix, mais nous sommes contraints à vivre avec le monde dans une société qui est maintenant rapprochée, où les gens sont en contact et interdépendants les uns des autres. Je crois que c'est dans cette direction-là que nous devons poursuivre l'effort. Et merci à la Radio Romande d'être venue parmi nous aujourd'hui. Et merci aussi à Département de l'Instruction publique qui a accepté cette émission. Et merci aussi à tous les enseignants et enseignantes, bien sûr, et qui ont participé à cette émission. Je crois que c'était une chose très utile et intéressante.
Et à votre coadjuteur, Maurice Cuplin.
Bien évidemment.
Participer à cette émission, Madame Micheline Ray, chargée de mission au département d'instruction publique du canton de Genève, Messieurs Philippe Aubert, inspecteur, Étienne Brun, maître adjoint, René Gossauer, doyen à l'école supérieure de commerce de Malignoux, Monsieur Gilbert Hannon, secrétaire de la communauté de travail, de l'action de la communauté de travail pour l'accueil et l'intégration des étrangers, et puis des enseignants. Mesdames Claire-Lise Kevuchen, Christine Lebas, Mireille Zappa, et puis aussi des bénéficiaires de cette action. Mademoiselle Maria Pilar Tofino, Mademoiselle Feben Sium, Monsieur José Salgado. Nous étions au collège de Sécheron. Avec la complicité active de Pierre Semeroux à la technique de Genève, de Jean-Claude Renoux à la technique de Lausanne et d'Imelda Gua, notre réalisatrice de Para 2. La semaine prochaine, nous changerons de ville, mais nous resterons dans l'enseignement, avec l'université parmi nous, une production de Para 2 et Certé Berne, l'université parmi nous. Il s'agira de l'université de Berne. Nous nous retrouverons à la même heure, sur la même longueur d'onde, et déjà, je m'en réjouis. Bonne soirée, bonne fin de soirée à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir.